Oui, un titre un petit peu mystérieux, hein, le tableau comme lieu, qui est peut-être l'essence même du tableau, d'être un lieu ou de faire lieu, enfin, c'est ce que je vais essayer de montrer. Alors, le tableau, hein, pourquoi travailler sur le tableau ? Parce qu'il est omniprésent en classe. Et puis, il est, même si vous voyez, hein, je vais commencer par non pas faire un tour exhaustif des travaux de recherche sur le tableau, mais comme ils sont existants, il y a des résultats de recherche qui sont consistants, intéressants à connaître, et je m'inscris dans leur suite. Mais en formation, par exemple, on peut dire le tableau, c'est pratiquement un objet, alors même qu'il est extrêmement présent, très peu objet de formation. Hein. Une des chercheuses qui a beaucoup travaillé sur le sujet, Rouba Hassan, fait remarquer qu'effectivement, dans des comptes rendus de visite, par exemple, hein, de formateurs ou bien sûr des rapports d'inspection, on trouve, hein, des annotations sur le tableau. Mais sinon, c'est pratiquement un objet. Vous voyez, c'est le type d'objet invisible, quotidien, banal et pratiquement invisible, qu'on ne voit pas. Alors, notre observation des classes, hein, nous a permis effectivement de nous intéresser à ce qui peut être massif et pourtant pas très visible, pas très travaillé, pas très étudié, dont le tableau, et c'est la raison, hein, pour laquelle principalement effectivement je m'y suis intéressée. Vous verrez, hein, c'est la question aussi, hein, de l'ordinaire des classes et de ce qui se passe dans l'ordinaire des classes, qui est bien sûr intéressant par rapport à ce que disait Yves ce matin. C'est vrai que les préconisations institutionnelles, dont celle de la circulaire de rentrée que pointait Hélène, posent que la prévention et surtout le traitement, hein, du décrochage peuvent avoir lieu dans des lieux... Alors, innovants, expérimentaux, mais qui ne sont pas effectivement les lieux ordinaires du travail enseignant et du travail des élèves. Là, ce que j'aimerais vraiment voir, c'est une pratique, effectivement, une pratique ou des pratiques très, très ordinaires. Et donc, un quatre temps pour cet exposé. Un tout petit mot, parce que je ne veux pas être exhaustive, et parce que ce n'est pas le lieu d'être exhaustif, des travaux de recherche existants, toutefois un détour, j'aime bien les détours et les pas de côté, donc un détour par la question du détail. Et ce que c'est qu'un détail, et le détour, ça sera un détour peut-être inattendu, par l'histoire de l'art, entre autres. Ensuite, une analyse... sur finalement assez peu de choses, hein. On pourrait dire, bah oui, un professeur au tableau, des élèves dans une classe, hein. Donc une pratique ordinaire principalement, même si je la mets en parallèle avec d'autres pratiques, elle aussi peut être ordinaire. Et puis un temps de théorisation sur peut-être effectivement ce que c'est finalement qu'un tableau. Et c'est peut-être pas si évident de savoir ce que c'est qu'un tableau. L'idée que j'aimerais vous soumettre, c'est que ce qui fait qu'un tableau est un tableau, c'est qu'il fait lieu. Alors, je laisse le mystère, hein, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de lieu et de faire lieu ? Je vous invite évidemment à voir, à découvrir au fur et à mesure de cet exposé. Alors, un premier temps pour voir quelques recherches existantes, puisque souvent, effectivement, une des premières choses qu'on peut faire, avant peut-être même d'observer, hein, c'est de regarder quand même ce qui s'est dit, ce qui s'est fait. Alors, c'est pas pour avoir des a priori, ça permet d'ouvrir les yeux, bien souvent. Alors, des travaux de recherche, je fais de la publicité pour une collection, Yves a déjà fait de la publicité ce matin pour une collection. Cette collection, c'est la collection Paideia aux presses universitaires de Rennes, hein, sous la direction de Bertrand Donnet et Céline, et l'équipe Théodile, les écrits professionnels des enseignants, donc ouvrage paru en 2011, et où vous avez des chercheurs qui discutent, et dont deux chercheuses qui sont tout à fait essentielles, hein, une ancienne Elisabeth Nonon, et puis une jeune chercheuse. Elle est quand même déjà bien expérimentée, Rouba Hassan, qui expose là des travaux synthétiques. C'est pour ça que je mets, hein, principalement, vous voyez, cet ouvrage, hein, donc l'article, enfin l'article chapitre ou le double chapitre dans cet ouvrage, les écrits professionnels des enseignants. Donc le tableau de la classe. Et je vais essayer de voir effectivement que ce titre est peut-être tout à fait intéressant. C'est peut-être pas rien que de dire finalement oui, le tableau, c'est le tableau de la classe. Parce que vous voyez comment le dire. Hein, où Elisabeth Nonon, elle préférait parler du tableau noir. On pourrait dire, oui, mais c'est parce que c'est une vieille chercheuse. Maintenant, il n'y a plus de tableau noir. Ils sont tous blancs. Et puis, peut-être même, ils sont interactifs. Mais justement, c'est tout à fait intéressant hein, que de se pencher sur le tableau noir. Ou les usages, vous voyez, pourrait-on dire, hein, prototypiques du tableau, sans passer par l'outil informatique, pour nous apprendre peut-être des mauvais usages du TBI, du tableau blanc interactif, ou de bons usages, peut-être, du tableau blanc interactif. Un autre article que vous pouvez trouver, il est accessible en ligne, hein, un autre article intéressant mais moins abouti, je trouve, moi, que le chapitre les écrits professionnels des enseignants, écrire au tableau entre pratique langagière et gestes professionnels. Et puis la discussion effectivement entre Rouba Hassan et Elisabeth Nonon, c'est tout à fait intéressant, hein, avec effectivement ce côté de en regard. Et ce qu'elle écrit, perspective didactique d'écriture au tableau. Alors, juste de tout petits extraits, je voudrais juste pointer des petites choses qui sont dites par elle. Alors, par exemple, Rouba Hassan, effectivement, pointe des différences disciplinaires, hein, page 63, parce qu'il y a bien des mondes disciplinaires, et quand on regarde ce que les enseignants font, ou font faire, ou qui ils emmènent, à qui ils demandent d'aller au tableau, il y a par exemple des grandes différences entre les professeurs de mathématiques et les professeurs de français. Et c'est assez étonnant, parce qu'on pourrait se demander, mais où est-ce qu'ils apprennent ça? Parce qu'en général, vous voyez, c'est pas des objets vraiment analysés même en formation. Donc c'est des choses aussi qui se transmettent, hein, peut-être des pratiques finalement d'imitation, hein, quand on voit les autres faire. Donc il y a quand même des univers effectivement disciplinaires différents. On pourrait jouer au jeu des devinettes. Hein. Que fait un professeur de mathématiques? Qu'est-ce que vous pensez que fait un professeur de mathématiques par opposition à un professeur de français? Alors, elle qui a vraiment vu beaucoup d'enseignants au travail, hein, fait remarquer qu'effectivement, le professeur de mathématiques, souvent, se met en retrait du tableau. Et là, vous allez dire, ah bah oui, forcément, en mathématiques, moi aussi. J'y suis passée au tableau. Et très souvent, en mathématiques, effectivement, c'est l'élève qui est inscrit au tableau, hein, qui est scripteur. Alors que en français, il y a une pratique qui est que souvent c'est l'enseignant qui est scripteur au tableau, hein, et il n'y a pas d'évolution, vous voyez, hein, c'est pas forcément les élèves qui vont au tableau. Et en général, le professeur, en revanche, note, et d'une certaine façon secrétaire de séance, hein, il note au tableau les paroles des élèves. Et cette pratique qui est extrêmement ordinaire mérite sans doute, hein, d'être analysée. Qu'est-ce que c'est que d'être effectivement, finalement, un simple secrétaire, de telle sorte que, vous allez voir, hein, qui finalement écrit? On peut se poser la question de qui écrit, qui inscrit, c'est le professeur, mais qui écrit? Alors, il y a des tas de choses. Je vous renvoie à la lecture, hein, je vous invite à cette lecture, avec des fonctions transdisciplinaires. Ça a été beaucoup pointé aussi par des didacticiens de mathématiques, hein, surtout sur les fonctions d'institutionnalisation, ce qu'on appelle l'institutionnalisation du savoir, donc hein, pour retenir évidemment ce qui est extrêmement important de retenir, pour dire, hein, ce qui est à apprendre. Alors après, il y a plein de choses, hein, sur le tableau, est-il un brouillon, qu'est-ce qu'on en fait de ce tableau? Juste pointer, alors c'est un terme, hein, qui appartient, j'ai mis des guillemets, hein, ce n'est pas moi qui parle ici, Aruba Hassan, qui pose effectivement que y a une histoire en même temps, hein, des formes pédagogiques qui pointent que le tableau n'a pas toujours existé et qu'il a été introduit et qu'il a changé radicalement beaucoup de choses dans l'école. Donc, historiquement, effectivement, hein, le tableau introduit dans les classes afin de s'adresser à un collectif par une exposition qui permet d'oraliser et d'écrire. Donc, c'est assez intéressant parce que le tableau C'est pas pour une adresse individuelle, c'est bien peut-être pour effectivement exposer quelque chose à un public, hein, à d'autres. Donc il y a quelque chose qui a à voir avec effectivement peut-être constituer la classe en classe, vous voyez, constituer un collectif de travail. Hein. Et puis le tableau, effectivement, bah, c'est pas qu'un support du lire-écrire. Hein. Il y a plein de choses qui se passent effectivement aussi du côté de l'oral. Alors Rouba Hassan, je vais me permettre de la citer ensuite, hein, restitue ainsi les éléments d'histoire qu'elle puise à André Chervel. Alors excusez-moi, ça doit être assez illisible. Donc page 50-51. Il est intéressant à ce titre de citer Chervel, qui décrit ainsi le grand virage pédagogique qui s'est opéré au milieu du XIXe siècle et le rôle que prend le tableau à ce moment-là. Au maître silencieux, oui, parce qu'il y a eu un moment où les maîtres ne parlaient pas, peut-être, hein, ils avaient tout un système d'écrit pour que les élèves n'aient pas besoin d'un maître qui parle. Hein. Au maître silencieux va succéder un instituteur qui expose, qui lit à haute voix, qui explique parfois et même raconte. En conséquence, une autre, 51, ça veut dire qu'on passe de la page 50 à 51, une autre pédagogie commence à se mettre en place. Elle utilise le tableau noir sur lequel le maître montre les chiffres, les lettres, les mots. Et c'est vrai que le côté « je dis et je montre hein, » par cette parole, c'est la forme scolaire dont parlait Yves Rotter, hein, qui est une forme effectivement artificielle, hein, qui est une forme tout à fait particulière, qui est en rupture avec des modèles sociaux, même si on peut dire que la forme scolaire, peut-être, elle se trouve aussi ailleurs qu'à l'école, hein, que notre société, elle est empreinte de cette forme scolaire. Alors, en orange, parce que je trouve que c'est extrêmement important, ainsi le tableau noir devient un outil. Souvent, on se demande quels sont les outils du travail. Et c'est un outil, mais peut-être que, d'ailleurs, tout outil n'est pas forcément un outil, donc c'est l'usage, peut-être, qui fait l'outil. Ça me paraît intéressant de voir qu'est-ce qui est entendu là par outil. Hein, est-ce que c'est parce que j'ai un tableau qu'immédiatement, ça va être un outil pour moi quand je suis enseignant? C'est peut-être pas évident. Il y a peut-être des pratiques qui n'en font pas vraiment un outil. Ainsi, le tableau noir devient un outil permettant à l'enseignant d'organiser l'étude et d'exposer aux yeux de tous non seulement des contenus de savoir, mais aussi des démarches intellectuelles. Cette écriture qui s'expose et expose aux yeux de tous tire sa puissance de sa dimension ostensive. Donc, citation de Rouba Hassan, citant elle-même les travaux de Chervel. Et, mais le côté ostension, hein, c'est bien effectivement un acquis de Rouba Hassan. Et vous voyez, c'est assez intéressant parce que le tableau, il permet effectivement d'exposer des contenus. Donc on peut se demander comment on les note, ces contenus, enfin comment ils apparaissent. Hein. Et puis aussi, comment on expose des démarches intellectuelles? Comment ça? Ça veut dire quoi? Comment écrire des démarches intellectuelles? Est-ce que tous les tableaux décrivent des démarches intellectuelles? Peut-être que quand on voit après certaines pratiques enseignantes, on peut se demander mais qu'est-ce qui va montrer comme ça? Hein, qu'est-ce qui va incarner, incorporer, enfin rendre matériel, visible, toutes ces opérations intellectuelles? Peut-être que certaines, justement, certaines pratiques ne montrent pas ça, hein, se centrent davantage sur les contenus que sur les démarches intellectuelles. Alors, je m'arrête, je reprendrai à la question l'ostension. Est-ce que l'ostension suffit à dire ce que c'est qu'un tableau? Et je pense que ce qu'est un tableau, c'est plus qu'une ostension. C'est une ostension qui produit quelque chose de particulier et qu'il y a des tableaux qui ont bien cette caractéristique de l'ostension, mais qui, à mon avis, ne sont pas des tableaux, même si, matériellement, ce sont des tableaux. Alors, pour passer à ça, hein, je vais... parce que tout à l'heure, j'ai parlé de l'outil. Vous savez, l'outil, hein, c'est toujours la question, qu'est-ce que c'est qu'un outil? Cet objet peut être un outil, mais peut ne pas être un outil en tant qu'il doit me permettre plein de choses. Hein. Si je m'en sers que... C'est Anne-Marie Chartier qui dit ça. Hein. Si je m'en sers que comme un traitement de texte, finalement, je ne m'en sers pas comme outil informatique hein, dans sa pleine dimension. Une chaussure peut être un outil hein, si je la prends et je la détourne. L'homme est un être qui détourne beaucoup de choses et que je m'en sers pour me défendre, par exemple. Hein. ou pour enfoncer quelque chose. Vous voyez, une chaussure n'est pas faite, ce n'est pas un marteau, mais je vais bien m'en servir. Hein. Donc d'une certaine façon, ce qui fait l'outil, pourrait-on dire, ce n'est pas l'objet, c'est l'usage qu'on fait d'un objet. Et là, c'est pareil. Hein. Est-ce que le tableau, c'est un outil ? Peut-être, certes, mais finalement, c'est un certain type d'usage qui va faire que le tableau-objet devient outil. Alors, petit pas de côté, petit tour par ce que c'est qu'un détail. Parce qu'effectivement, ce que je vais vous soumettre après, c'est vraiment un détail, mais vraiment un tout petit détail, et pourtant, me semble-t-il, extrêmement intéressant. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un détail ? J'emprunte... C'est intéressant parce que j'étais en train de travailler là-dessus. Quand je suis tombée sur une lecture, je me suis dit, c'est pas vrai. En plus, elle cite Arras, et j'étais en train de lire Arras et l'ouvrage d'Arras, historien d'art, sur le détail. Parce que je travaille sur l'observation aussi, et que Arras dit effectivement en histoire de l'art, mais on ne dit jamais qu'on observe, et pourtant, un historien d'art, c'est un grand observateur. Et là, c'est une citation qui est sur deux pages de Michel Guigues, qui a écrit, c'est récent, c'est un numéro de décembre de 2012, un détail. Alors, qu'est-ce que c'est un détail ? Un détail renvoie au tout auquel il appartient. Donc, ce qui compte dans le détail, vous voyez, c'est en fait ce que signifie ce détail, enfin, ce qu'il veut dire, hein, et par l'idée que quand on prend un détail, finalement, on a une vue... une vue sur une globalité. Le détail n'est pas quelque chose qui fait qu'on est dans une micro, un niveau micro ou une micro-situation qui ne renverrait qu'à elle-même, hein, mais on est renvoyé à plein d'autres choses. Et regarder le monde par le détail fait que peut-être, effectivement, on voit plus que le détail en lui-même. Un détail renvoie au tout auquel il appartient, mais un tout ne peut jamais être considéré comme un simple collage de détails. Ensemble, ils composent une structure dont les éléments sont interdépendants. S'intéresser à un détail, c'est ce que je vais vous proposer après, hein, de vous intéresser à un détail. Revient donc à mettre en question la totalité, à s'interroger sur les liens des éléments entre eux et sur son mode de construction à cet ensemble. C'est pourquoi tout un ensemble de traditions s'attache à valoriser des détails en leur attribuant des dénominations variées, des perturbations chez Bachelard ou Piaget, des bizarreries chez Hanselstrauss et des écarts chez Arras. Donc c'est Michel Guigues, hein, dans un article, l'émergence des interprétations, une épistémologie des traces. Alors après, elle fait plein de choses différentes sur le détail et la trace, ce que c'est que le chasseur qui cherche des traces, et que toute trace n'est pas forcément un détail, etc. Je passe là-dessus, parce que c'est pas forcément notre objet. Mais en revanche, effectivement, comme j'étais en train de lire Arras et Arras le détail, c'est assez intéressant de voir ce que dit cet historien d'art, que vous connaissez peut-être, et qui effectivement, hein, d'abord dit, c'est un titre de ses ouvrages, je trouve intéressant, on n'y voit rien. Effectivement, peut-être qu'une des premières choses qu'on fait quand on observe et quand on observe la pratique de quelqu'un, c'est qu'on n'y voit rien. Et peut-être que quand on veut regarder ses propres pratiques, alors là, on y voit encore moins bien. Hein. Donc, on n'y voit rien. Et Arras, effectivement, montre bien que lui, s'attardant sur, par exemple, des tableaux qu'il croyait vraiment connaître, tout à coup, découvre que, ah, il y a un détail, il y a un escargot, mais énorme, qu'il n'avait jamais vu. Ou bien il y a un tout petit Saint-Esprit, ou bien il y a quelque chose, il y a une Madeleine qui a des cheveux absolument démesurés, etc. Donc vous voyez, ce sont des détails. Hein. Donc c'est assez intéressant, c'est un tout petit quelque chose, et qui en même temps, à partir du moment où on le voit, alors l'œil nombril, enfin chez Arras ça donne des choses comme ça, fait qu'on ne voit plus du tout de la même façon. Alors ce que je vais vous proposer, vous voyez, c'est peut-être complètement démesuré et extrêmement ambitieux, c'est de nous attarder sur vraiment un tout petit détail, qui peut-être, effectivement, fait qu'on ne voit plus les choses de la même façon. Alors moi, je travaille en parallèle sur le lycée professionnel. Depuis que j'ai travaillé là-dessus, effectivement, hein, je regarde différemment aussi des pratiques d'enseignants, vous voyez ailleurs, hein, en première, en lettres, histoire, géographie, bac pro, par exemple. Alors voilà le détail. Donc l'élève H, en sixième, c'est cette année, hein, 5 décembre, on apprend tous ensemble en anglais. Ah oui, bah oui, c'est un détail. Alors, je recontextualise. C'est sur double colonne. Hein. Mais vous voyez, c'est une toute petite situation d'entretien avec un élève. Hein. Est-ce que tu aimes bien que le professeur te dise « Tu viens au tableau ?» Oh, oui. Qu'est-ce qui fait que tu aimes bien être au tableau ? Je sais pas, faire des opérations. Par exemple, en mathématiques. Ah oui. ben, faire la phrase du jour, l'écrire en français, ou en anglais, faire, je sais pas, en anglais. Des fois, on va pas au tableau. On va pas souvent au tableau en anglais ? Oui. C'est le professeur qui reste au tableau ? Oui. Alors voilà, cette petite séance m'a beaucoup intéressée. Parce que l'élève dit, on apprend tous ensemble, et en même temps, vous voyez, c'est qu'est-ce qui va faire qu'il y a bien quelque chose qui est le collectif ? Qu'est-ce qui va faire que cet élève, il adore les cours d'anglais, et il a vraiment l'impression d'apprendre, pas seulement lui, hein, mais que toute la classe apprend. Et ce qui m'intéresse, quand on regarde de près ce qui se passe dans cette petit échange, hein, parce que l'entretien est beaucoup plus long, c'est que il commence par penser, hein, aux mathématiques. Or, ça n'est pas l'ordre de ses disciplines préférées. C'est-à-dire qu'à un certain moment, je lui demande quelles sont ses disciplines préférées. Et la première discipline, c'est l'anglais. Je sais par ailleurs, puisque j'ai observé cet élève et l'enseignante, que dans ce que j'ai vu, je ne sais pas hein, par ailleurs, mais dans ce que j'ai vu, les élèves ne vont pas au tableau. Alors, pratique ordinaire, effectivement. Vous allez dire, mais c'est extrêmement classique. Hein. On est dans une salle de classe en sixième, c'est une salle d'anglais, donc il y a tout un aménagement avec des tas de choses qu'on peut trouver classiquement. Hein. C'est l'installation du décor, et surtout les professeurs d'anglais hein, font beaucoup, beaucoup dans les affichages hein, pour effectivement qu'on soit bien en classe d'anglais. Là, on est en classe d'anglais. Mais qu'est-ce que c'est qu'une classe hein ? C'est assez intéressant. Donc des élèves, il y a eu un début de cours que oral, hein, et puis il y a des exercices, et à un certain moment, un élève demande quelque chose qu'il ne comprend pas sur la feuille, et le professeur écrit « bookshelves ». Alors je n'ai mis qu'une seule photographie, hein, et j'aurais pu en mettre d'autres parce que c'est à développer. Et vous voyez, il y a une écriture en liste, hein, « bookshelf ». Bookshelves, et puis après elle va dire c'est pareil que ce qu'on a vu l'autre jour, et elle va écrire children, child. Et donc il y a tout un travail voyez, avec cette mise en liste. Alors après il y a les surlignements, les couleurs, etc., qui montrent bien hein, les aides qui sont apportées effectivement aux élèves, et puis l'accueil évidemment de ce qu'ils ne savent pas, qui n'est pas du tout dramatisé comme tu ne sais pas, mais justement c'est l'occasion d'apprendre quelque chose et puis de rappeler ce qu'on a vu. Alors pratique. Pourrait-on dire extrêmement ordinaire, oui. Et en même temps, ce qui est assez remarquable, pourrait-on dire, c'est la façon dont le tableau va servir à montrer effectivement les opérations intellectuelles, va formaliser les apprentissages. Et là, le tableau est extrêmement structurant pour les élèves. Et en même temps que les élèves y sont au tableau. Parce que elle note ce que les élèves, effectivement, disent. Ce n'est pas elle qui va commander, même si, bien sûr, c'est elle qui est aux commandes et qui pilote. Et ce que je trouve en plus intéressant par rapport à la question du genre, hein, c'est-à-dire des garçons et des filles, c'est que là, dans ce fait d'être le professeur au tableau et pas d'envoyer les élèves au tableau, on trouve une modalité d'écriture peut-être, alors peut-être autrefois, mais il faut se méfier des autrefois, peut-être une modalité d'écriture masculine qui a été étudiée, par exemple, par Bernard Lahire, qui est celle des notaires, que peut-être vous connaissez, hein, des directeurs, etc., qui est une vieille pratique d'écrire sans écrire, de dicter. Écrire sans écrire, vous voyez, c'est écrire, mais sans être dans la scription, dans l'inscription. Et là, on a quelque chose qui est assez intéressant de la façon dont on peut dissocier, effectivement, finalement, écrire, déléguer l'écriture, c'est-à-dire puis l'écriture, l'inscription, ou écrire à distance. Alors, autre pratique ordinaire, mais peut-être, vous voyez, moins ordinaire, parce qu'elle est plus spectaculaire. Il y a quatre élèves au tableau. Mais peut-être qu'il faut aussi voir l'intérêt d'avoir quatre élèves au tableau qui ne font pas la même chose et qui n'écrivent pas la même chose, non seulement pour ceux qui écrivent, mais aussi pour ceux qui lisent. Parce que le tableau, effectivement, il est fait pour être lu. Et les élèves sont extrêmement attentifs, ils ont plein de choses, effectivement, à voir. Et puis, ils ont le choix, ils peuvent regarder ce que fait un de leurs camarades, deux, trois ou quatre. Et puis après, effectivement, interagir avec les résultats de ce qui a été écrit au tableau. C'est de la conjugaison, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire. Et ça devient, là, extrêmement dense et ludique. Alors, je trouve ces pratiques, vous voyez, intéressantes parce qu'elles sont très interactives. Elles sont complètement, oui, on va dire ordinaires, on peut ne pas les voir, et elles font contraste avec des pratiques qui ont peut-être tendance à se généraliser avec l'usage des TBI, ou l'usage, par exemple, effectivement, de ce genre d'outils, de diaporamas, qui, comme le dit Edwige Nonon, ne permet pas l'interaction, puisqu'on est dans le déroulement, vous voyez, donc il n'y a pas d'interaction, sauf à faire des diaporamas ou utiliser Prezi, et pas ce genre d'outils, il n'y a pas beaucoup d'interactivité. Et on peut penser qu'il y a des personnes, dont des enseignants, qui vont penser que l'excellence professionnelle consiste à faire des diaporamas ou consiste à avoir des usages, vous voyez, du TBI, qui sont finalement des usages extrêmement impositifs et très peu interactifs. Et où pourtant, il y aura eu beaucoup de travail de préparation. Tout est absolument très bien écrit, il n'y a justement pas d'erreur, c'est parfait, il n'y a pas de rature, il n'y a pas de sale, c'est pas sale, tout est propre, etc. Mais où finalement, ça ne marche pas. C'est assez bizarre de voir, là ce sont des pratiques où effectivement les élèves, dans la mesure où il est possible de l'affirmer, sont bien dans les apprentissages. Et puis il y a des pratiques, au contraire, où il y a une espèce, vous voyez, de dissymétrie entre la perfection de ce qui a été préparé et projeté par l'enseignant et puis le peu d'écoute. Mais quand on y réfléchit bien, le tableau, c'est pas finalement qu'un outil d'ostension. Et ce qui fait que le tableau est un tableau, c'est qu'il fait lieu. Alors, c'est pas moi, je remercie beaucoup Jean-François Thémine, qui est professeur de géographie, avec qui j'ai travaillé sur cette question du lieu. Et ce qui permet d'aller chercher des références qui sont très très peu utilisées en général en sciences de l'éducation, qui sont des références de géographie. Je sais qu'il y a des professeurs d'histoire-géographie dans la salle. Et la géographie, ça peut servir non seulement à faire la guerre, comme dit l'autre, mais aussi peut-être à penser, et à penser des tas de choses. Bien sûr, les rapports spatiaux, c'est les hommes et l'espace. Alors, et une salle de classe, effectivement, est une salle où peut-être, effectivement, il y a bien des questions de place. Alors, j'emprunte à Michel Lussault, parce que c'est le directeur de l'IFE, de la lutte des classes. À la lutte des classes, il ne parle pas du tout de l'école dans cet ouvrage, même s'il y a des choses extrêmement intéressantes. Mais la place, alors au sens géographique, peut-être effectivement que c'est un concept pour penser les situations scolaires. Et finalement, le tableau, comme lieu, distribue les places. Et c'est extrêmement intéressant. Qu'est-ce qu'un lieu ? Alors, en géographie, alors toujours, Lévy et Lussault. Un lieu en géographie, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simple. On pourrait dire, c'est vraiment tout simple. C'est là où quelque chose se trouve et où se passe. Ah oui, mais c'est un super critère. Est-ce que sur le tableau, il y a quelque chose qui se passe ? C'est en d'autres termes, et selon le dictionnaire de la géographie et de l'espace des sociétés humaines, là où quelqu'un se trouve et qui œuvre à quelque chose en ce lieu. Et précisément, pourrait-on dire, les deux pratiques que vous avez vues en résumé, là, avec une photographie, vous voyez, ont bien un usage du tableau qui fait que le tableau, et là, il faut donner raison à Rouba Hassan, c'est bien le tableau de la classe. Parce que ces personnes utilisent l'objet tableau comme effectivement ce qui va bien faire qu'il y ait un collectif, qui donc fait que les élèves sont bien dans un collectif qui va apprendre. Et ce tableau, effectivement, est bien le lieu où quelque chose se passe. Il y a bien quelque chose qui se passe, il n'y a pas simplement quelque chose qui est montré. Et ce qui est bien sûr intéressant à travailler, c'est après le lien avec les cahiers. Il y a des cahiers où, d'une certaine façon, les élèves collent simplement ce qui a été écrit, mais pas par eux, au tableau. Et donc, ni le tableau, comme collectif, ni le cahier, qui pourtant est un cahier à soi, hein, donc qui est un cahier qui favorise l'individuation, pourrait-on dire, ne peuvent pas s'y trouver, hein, ni au tableau, ni dans le cahier. Alors, comment être bien et persévérer dans l'effort, dans un lieu où finalement on n'a pas de place, hein. Et sans doute qu'effectivement il y a des pratiques d'écriture, ou d'inscription, ou même de non-inscription, mais toutefois d'écriture, qui font de la place, et d'autres qui n'en font pas. Et peut-être qu'il y a quelque chose d'assez intéressant à aller voir ainsi. Vous voyez, c'était un tout petit détail, mais c'est en travaillant sur les entretiens, hein, et cet élève qui dit, oui, en anglais, mais pourquoi est-ce qu'en anglais, comme ça, il dit, on apprend tous ensemble. Et je pense, alors on peut lui poser la question, parce qu'elle est là, si elle pense ça aussi de sa pratique, hein, qui fait qu'il y a quelque chose là qui est un collectif au travail, et avec des cahiers d'élèves qui sont bien leurs cahiers, hein, même si bien sûr les élèves peuvent copier dans leurs cahiers ce qu'il y a au tableau, mais il y a une marge aussi d'inscription où on peut se trouver soi, hein, et trouver le collectif dans le cahier.